Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Oh, ça faisait longtemps. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille pour la première fois à une émission d'après-sprint. Et cette fois-ci, le premier de 6 épisodes, parce qu'il y a 6 sprints cette année. Et cette fois-ci, on revient sur celui du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 et avec un nouveau format. Et j'accueille avec moi François Carignan. Salut François.
Salut Abdou, ça va?
Oui, ça va bien toi?
Je vais très bien, merci.
Good. Alors, avant de revenir sur ce sprint, le premier de 6 en 2023, on a un nouveau format en Formule 1 avec maintenant Rip in Pieces, la séance d'essai libre du samedi avant le sprint, ce qui a été remplacé par un sprint shootout qui est littéralement une qualification sprint déterminant la grille de départ pour le sprint qui a lieu le samedi. François, au vu de ce que tu as vu aujourd'hui, ce samedi, qu'as-tu pensé de ce nouveau format de la Formule 1?
Personnellement, je suis un peu indifférent versus l'ancien format du sprint. Je pense qu'on va plus avoir une idée comme l'impact que ce format-là a demain, parce que on va voir la différence entre une situation où le sprint devient un facteur dans la grosse course et ce scénario-là dans lequel les deux sont des événements comme un peu distincts dans le même week-end. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai aucun problème avec ça, mais ça se peut aussi que demain, après la course, mon opinion soit différente parce que je vais pouvoir comparer avec d'autres sprints qu'on a vus par le passé. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, je suis jamais un peu d'accord avec ce point de vue-là.
Moi, je pense qu'au vu de ce que j'ai regardé, parce que oui, je me suis levé à 4h30 pour regarder le sprint shootout.
Ouais. J'ai essayé, j'ai pas taffé.
Moi, j'ai trouvé la qualification correcte. Okay. Et moi, je pense que sur papier, c'est une bonne idée parce que on va se le dire, la FP2 dans un format sprint est pas nécessaire.
OK.
Mais je pense que je ne sais pas si c'est à cause du circuit ou bien du fait que les pilotes ont essayé de trop pousser, mais je ne pense pas que Bakou est un circuit fait pour des sprints, pour la Formule 1 du moins. Parce que en Formule 2, ça a été le chaos total. Je dis ça comme ça. Là. Donc, je préfère donner la chance aux coureurs, mais honnêtement, pour ce sprint et pour le shootout, je suis resté un peu sur mon appétit.
Je suis d'accord avec toi pour ce qui est du fait que le circuit en tant que tel est peut-être plus ou moins approprié à ça. Est-ce qu'en même temps, on ajoute le fait qu'on a eu une interruption, on a eu une voiture de sécurité dès le début? Ça a peut-être aussi cassé, si on veut, l'élan de la course, puis est-ce que ça a peut-être un peu comme est-ce que ça nous a un peu privé d'une course plus intéressante? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que peut-être qu'il y en a qui avaient des stratégies différentes, tu sais, niveau d'essence, les pneus, etc., qui prévoyaient qu'il y avait un tel plan, puis que ça les a un peu balancés, ça les a un peu mis de côté, si on veut. Je pense pas que c'est une grosse affaire, mais c'est quand même quelque chose à considérer que quand t'as 2-3 tours là, dès le début d'un sprint qui est déjà très, très court, qui sont neutralisés, c'est sûr que ça va peut-être un peu avoir un impact. En même temps, comment je te dirais? Le sprint shootout est une qualification parfaitement normale, juste plus courte. Fait que, tu sais, on va au vif du. On va comme au crunch time plus vite. Fait que, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est vraiment comme regarder deux qualifs. Fait que, tu sais, le format en tant que tel, oui, est plus intéressant. Je suis d'accord avec toi pour ce qui est d'enlever une séance d'essai libre. Il y a aussi moins de préparation, un petit peu plus d'inconnus. Donc, tu sais, si jamais ça avait été un nouveau circuit, en plus, ça aurait été extrêmement intéressant. Donc, admettons qu'il avait fait ça à Vegas ou à Miami l'an dernier, ce genre de format-là où que tu connais rien du circuit puis tu as juste une heure pour aller le découvrir, là, ça devient super intéressant.
Ouais.
Je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Ben, écoute, moi, je pense que l'ancien format sprint avait besoin d'être revampé. Je pense que c'est un bon départ. Ça, c'est bon. Mais bon, là, je viens de lire, Max Verstappen a dit juste, il n'était pas en faveur de ce format. Il a dit, scraper tout ça.
Ouais. S'il avait gagné, peut-être qu'il dirait autre chose, mais bon.
Non, au contraire, je pense qu'il aurait quand même dit de s'en débarrasser. Ah. C'est pas quelqu'un qui est fan du format, qui préfère le format conventionnel, essai, qualif, course, comme on le voit maintenant dans 90% du calendrier actuel. Mm-hmm. Mais
c'est pas quelqu'un qui cache ses opinions, ça c'est vrai, t'as raison.
Mais je pense que déjà là, on est sur une bonne piste. Bonne piste de solution pour améliorer le spectacle et de rendre la fin de semaine plus attrayante, mais c'est juste le circuit qui doit... La sélection des circuits, parce que l'année dernière, c'était Imola, pas un circuit qui est fait pour des dépassements, et ça, c'est peu importe la génération de voitures. Maintenant, c'est Azerbaïdjan. Je pense qu'on s'attendait à ce que ce soit le chaos, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça ajoute quand même un niveau de risque. Parce qu'on l'a vu, il y a 20 pilotes. Il y en a eu 19 sur la grille de départ au sprint parce que tu as Logan Sargeant qui a tapé le mur à la fin de la SQ1, donc la première période de qualification sprint, et qui a été obligé de déclarer forfait. Williams a été obligé de déclarer forfait parce qu'ils n'auront pas le temps de réparer la voiture. Donc, ça aussi, c'est peut-être le risque aussi avec ce format, c'est que sur un circuit urbain, tu as beaucoup moins de temps pour effectuer un chrono. Mais tu dois aussi jauger un peu plus ton niveau de risque quand tu fais un tour lancé. Et d'ailleurs, je te lance la question rapidement. Est-ce que il y en a beaucoup qui disent que si c'est un shootout, ça devrait être un tour lancé par pilote. Au lieu de faire le format actuel Q1, Q2, Q3. Est-ce que tu crois que ce serait qu'on devrait faire ça à l'avenir? Est-ce que ce serait quelque chose qui fonctionnerait mieux que le format que nous avons vu aujourd'hui?
Je vais juste, avant de répondre à ta question, je veux juste amener un point avant que je l'oublie parce que je trouve qu'il est quand même important. Oui, c'est plus intéressant en tant que tel le format avec des sprints. Il y a un intérêt supplémentaire pour les spectateurs. Je pense que le fait que les sprints, qui a seulement 8 positions avec des points en jeu, puis que le reste, c'est essentiellement scrap, il n'y a aucune valeur ajoutée, que tu termines 9e ou 20e, c'est peut-être que ça enlève une partie du spectacle comparé au format qu'on avait avant où que les sprints avaient déterminé l'ordre de départ à la course. Fait que, tu sais, je comprends que t'es plus à risque d'une bad luck puis que ça scrape ton week-end au complet, même si jamais t'as un super bon week-end, ça te prend juste comme un seul moment, tu sais, 2 secondes où tout va mal pour complètement ruiner ce travail-là. Mais en même temps, c'est plus représentatif ce format-là qu'on a essayé ce week-end parce que justement, ça respecte comme la valeur habituelle d'une qualification et d'une course. Puis excuse-moi, il va falloir que tu me reposes la question parce que je l'ai complètement échappé.
Donc oui, je disais aussi pour le once, est-ce que ce serait mieux un tour lancé en qualification? On l'a vu
dans Oui.
Oui, hein?
Ouais, je crois que ce serait mieux. Comment je te dirais? ou bien tu as deux tours lancés puis tu gardes le meilleur. Fais quelque chose comme ça pour... comment je te dirais? Ou bien tu as deux groupes de 10 pilotes qui ont 20 minutes chaque ou quelque chose comme ça. Tu sais, de quoi qui nous permet de voir les pilotes séparément. Comparé à une qualif où tu as tout le temps les 20 pilotes qui sont là au début en Q1. Tu sais, tu peux pas tous les voir de façon égale. Fait que si jamais tu avais deux groupes qui ont un temps déterminé, ben ça serait plus facile pour la diffusion d'aller voir chacun des pilotes et peut-être ajouter une valeur à, tu sais, tout le monde pourrait voir ses pilotes favoris.
Ouais.
Peut-être ça au lieu d'un one-shot qualifying, une qualification en un tour, ou que c'est long puis tu as des délais, etc. Ou sinon, si jamais on reprend ce format-là qui a déjà existé, la qualification en un tour, ben du moment que l'autre est rendu dans le deuxième secteur, ben l'autre pilote sort des puits.
C'est ça, ouais.
C'est de quoi qui est successif, plus rapide, puis que t'as pas de downtime. Mais en même temps, ça, c'est pas correct, parce que si jamais le pilote cause un accident, ben l'autre a mis de l'usure sur sa voiture, utilisé de l'essence, a roulé ses pneus, puis ne pourra pas faire son tour clean.
Ouais.
Fait que tu sais. Mais en même temps, cette situation-là existe déjà dans la vraie qualif. Fait deal with it, tu sais.
C'est vrai.
Chiche.
C'est vrai, je suis d'accord.
Mais tu sais, l'ancien format était juste, était correct, parce que tu sais, c'est chacun a des chances égales. Il n'y a pas. Oui, évidemment, l'évolution de la piste a un facteur, mais tu sais, si jamais à ce moment-là, ce que tu as pour compenser ça, c'est que tu envoies les pilotes qui sont les plus rapides en premier, ben les pilotes sont au classement en premier, ben à ce moment-là, techniquement, leur voiture est plus rapide, donc la piste est dans un état moins parfait. Fait que tu sais, ça ramène un peu tout le monde.
Ouais.
Les pilotes, tu sais, j'ai un exemple des AlphaTauri, des McLaren, des Haas, etc., vont avoir la piste la plus évoluée.
Mm-hmm.
Fait que ça crée un petit peu de surprise.
OK. Ce serait quelque chose à penser si jamais le format devenait un peu populaire. Donc, j'ai hâte de voir. Maintenant, on va passer au sprint lui-même. Donc, je vais vous donner le résultat du sprint qui a eu lieu dans la matinée, heure du Québec, évidemment. Donc, ça a été Charles Leclerc qui a obtenu la toute première pole de ce sprint, mais il n'a pas gagné, malheureusement, parce que ça a été Sergio Perez sur la Red Bull qui est parti deuxième, qui remporte les 8 points. Charles Leclerc finit deuxième. Ensuite, Max Verstappen, troisième. George Russell, quatrième. Et ça, on va reparler de ces deux-là. Carlos Sainz, cinquième. Fernando Alonso, sixième. Lewis Hamilton, septième. Et Lance Stroll, huitième. Donc, voilà le top 8 des pilotes qui marquent des points de 8 jusqu'à 1. Et on a perdu un seul pilote. Et c'est Yuki Tsunoda, dont la voiture a fait une belle imitation d'un crabe après un contact dans le deuxième tour. On pensait qu'il avait fait comme Logan Sargeant et tapé le mur au virage 15, mais finalement, il y avait beaucoup plus que ça.
Ouais.
Et finalement, ben, on a vu des images où Nyck de Vries a touché à l'aileron avant de Tsunoda au virage 3 lors du départ, donc qui a fait en sorte que Tsunoda a perdu de l'appui et a tapé le mur là où Romain Grosjean s'est entre guillemets fait tasser par Marcus Ericsson en 2018, donc ce qui a amené la voiture de sécurité. C'est dommage parce que Tsunoda avait fait, heureusement c'est le sprint, parce que Tsunoda s'est très bien qualifié vendredi. Ça a été plutôt difficile samedi, évidemment éliminé à cause de l'accident de Sargeant parce qu'il était sur un tour rapide. Ouais. Et pour AlphaTauri, présentement, avec De Vries qui a eu son accident lors des qualifications du vendredi, c'est pas un bon week-end pour AlphaTauri.
Non, effectivement. Ben, je trouve que Yuki, honnêtement, faisait... Tu sais, il fait son travail cette saison.
Mm-hmm.
Tu sais, dans la situation où que AlphaTauri n'est pas une bonne écurie, tu sais, il termine proche des points. Tu sais, si je ne me trompe pas, il était 11e les deux ou trois premières courses, quelque chose comme ça, 11-12e. Les deux premières courses. Et puis, il a ramassé des points, si je ne me trompe pas, à sa dernière course. Là, ça, ouais, c'est ça. En Australie, il a ramassé un point.
Ouais.
Il a terminé 11, 11 et 10. Tu sais, je veux dire, pour ce qui est la pire voiture ou, disons, la deuxième pire voiture sur la grille, c'est quand même pas si pire.
Ouais.
La question avec lui a toujours été plus la maturité. Est-ce que ça démontre qu'il est en train de l'atteindre? Peut-être. Ça, c'est quelque chose à... on va remarquer au fur et à mesure que la saison avance. Mais Nick DeVries, pour moi, il est pas... il m'impressionne pas, disons, à date. C'est quelqu'un qui est plus vieux que Yuki Tsunoda, est supposé... Tu sais, il est champion en Formule 1. C'est quelqu'un qui est supposé d'être solide de ses... Tu sais, je comprends qu'il y a une période d'acclimatation. D'adaptation. Le bon mot, hein? Adaptation. Quand tu rentres en Formule 1. Mais en même temps, il a démontré à Monza qu'il a déjà cette capacité d'adaptation-là. Tu sais, il a fait une séance d'essai libre avec une écurie et la course avec une autre. Mm-hmm. Puis il a quand même réussi à ramasser des points.
Ouais.
Il a démontré qu'il avait un grand savoir-faire, mais là, en ce moment, c'est pas convaincant cette saison.
Ouais.
Est-ce que la voiture est un facteur qui, pour lui, est vraiment comme... qui a un plus gros impact que Yuki, parce que lui, c'est sa troisième saison F1, puis l'an dernier, il était déjà avec l'écurie, etc. Moi, je pense qu'on va savoir au milieu de la saison mm-hmm. qu'est-ce que Nick DeVries représente vraiment quand on va pouvoir le comparer à Yuki.
Ouais, et vraiment, c'est dommage parce que surtout aujourd'hui, c'était un très bon basse. C'était pas représentatif, mais c'est dommage parce que c'était bien parti, mais...
Ouais, tu sais, je pense qu'en qualif, il va partir 8e demain. Yuki, donc.
Oui, je pense que Tsunoda va partir 8e. J'ai justement la grille de départ de demain devant moi. Donc, ouais, Tsunoda va partir 8e demain. De Vries va partir bon dernier. Donc, et en plus, avec les dommages que Tsunoda a eu aujourd'hui, ben là, ça risque de... En espérant que ça n'ampute pas la course de demain, mais déjà, je pense qu'il n'était pas très content de ce que j'ai pu lire dans les dans son entrevue d'après-course. Il dit que some driver, probablement, il ne voulait pas faire la mention de De Vries, mais il n'était pas très content. Parlant de pas être content, je crois qu'on a tous assisté à ce premier moment d'anthologie hors piste en 2023 avec Max Verstappen qui a fini troisième, qui n'était pas très content d'une manœuvre de George Russell au départ. Les deux se sont touchés. On a vu qu'il y a un trou sur le ponton de la voiture de Verstappen. Et ce dernier n'était pas très content. Je crois qu'il dit... George Russell s'est excusé en disant ben écoute, j'avais pas d'adhérence. Verstappen lui répliquant mate, on n'a pas d'adhérence. On n'a pas d'adhérence. Attends-toi la prochaine. Je pense qu'il a dit attends-toi la prochaine fois à ce que quelqu'un le fasse. Puis il a dit à demi-voix, dickhead.
Hein? Je trouve que honnêtement, tu sais, si jamais on regarde qu'est-ce que Max Verstappen aurait dit il y a 3-4 ans, ça aurait été bien pire. Jusqu'au dernier mot. tu sais, je trouvais quand même que la conversation était pas si pire.
Ouais.
comparé à ce qu'on aurait pu voir de lui là, par le passé. Mais bon, le dernier mot a comme juste fait, bon, tu viens de démontrer d'où il t'a évolué, mais peut-être pas tant que ça. D'un point de vue maturité, d'un point de vue comme gestion de la colère. Mais il y a quand même raison, tu sais, je veux dire, t'es au premier tour, tout le monde a les pneus froids. Conduit en conséquence, mais en même temps, tu sais, comme je te disais quand c'est arrivé, il a fait ce qu'il a dit à George, plein de pilotes lui ont déjà dit, et d'autres pilotes, et ces pilotes-là se sont fait dire avant. Fait, c'est pas nouveau en Formule 1 qu'on voit ce genre d'échange-là, on regarde quand même un petit peu sur la situation overall. Max en a fait beaucoup des gestes comme ça.
Ouais.
Fait qu'il y a un brin d'hypocrisie là-dedans. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est JP Lambiasi qui dit good job, beau dépassement. Puis Max qui répond sur le team radio, il dit ouais, sans contact. Ouais. C'est un peu sassy, mais je trouve que c'est meilleur pour le show que ce qu'il a dit à George. Je sais pas si jamais t'es d'accord. Moi, personnellement, ça m'a plus fait rire. Puis
ouais,
aussi, quand il a dit you have floor damage, puis il dit how that happened, puis que. JP lui dit how do you think?
Qu'est-ce que tu penses? Non, c'était jusqu'à là, en plus c'était bien, c'était le niveau de sass que j'aime entendre là. Par contre, pour revenir à ce que Max a dit, moi j'ai pas de problème à ce que Max dise sa façon de penser. Je crois que il a le droit d'être frustré, de le dire à George. Bon, le décret, c'était pas nécessaire.
C'est le mot de trop.
C'était de trop, mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est ce même Max Verstappen qui faisait la même chose. Par exemple, et je dis bien par exemple, c'est un parmi tant, à Lewis Hamilton, entre autres à Imola et à Barcelone en 2021. Quand il avait aussi fait la même chose à Kimi Raikkonen au Grand Prix du Japon en 2018, où il s'est pris une pénalité pour être revenu en piste de manière un peu dangereuse, genre Vettel au Canada en 2019 et avait poussé Raikkonen un peu hors piste. Donc, c'est exactement... C'est pour ça que ça me dérange un peu, parce que c'est exactement la même chose qu'il faisait. Puis, il a dit aussi la même chose lorsque Lewis Hamilton, disons, l'a dépassé dans le premier tour en Australie.
Okay.
Puis, il n'était pas très content. Donc,
ouais. Ben, tu sais, on peut, si jamais on regarde ce genre de situation-là, là, on peut faire une chaîne à peu près jusqu'au début de la F1 parce que.
Exact.
Max l'a fait à Lewis. Lewis l'a fait à Albon, à plein d'autres pilotes.
Voilà.
Tu sais, c'est de la course automobile. Ça va arriver, ces choses-là.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est. Il y a des pilotes qui s'améliorent dans ce domaine-là. Puis, il y en a d'autres que, ben, leurs habitudes changent plus ou moins. Puis, tu sais, je veux dire. Moi, personnellement, cet échange-là, je trouve juste que c'est moins... Comment je te dirais? C'est moins relevant que l'échange de torpedo entre Daniel Kvyat et Sébastien Vettel, que je trouve qui est beaucoup plus comme du bonbon, parce que c'est plus comme coloré, si on veut. Ça, c'était juste comme... OK, fine. Ouais. Je pense pas qu'on va en reparler longtemps, mais... ça. Ceux qui n'aiment pas Max Verstappen vont se rappeler de ça, vont s'en rappeler quand même parce que ça démontre encore une fois qui est du genre à s'emporter, qui est facile comme à trigger, là, j'ai pas le mot en français, mais.
À frustrer,
à faire disjoncter.
Mais.
Puis ça démontre encore une fois que ce gars-là sa confiance en lui est presque inébranlable, puis que c'est la faute à George, mais si, même si jamais ça avait été un 50-50, comme à peu près n'importe quel pilote de course avec son statut, il aurait dit c'est pas de ma faute.
Non, c'est ça. Je pense que ce soit, par exemple, Sargeant et Tsunoda ou whatever, je pense que la réaction aurait été la même, mais c'est juste... oui, c'est vrai qu'on garde de Max parce que c'est lui qui est un peu la tête d'affiche de cette... qui est la tête d'affiche de cette saison, mais... tout le monde est hypocrite. Les pilotes sont hypocrites d'une manière ou d'une autre parce que autant ils se sont fait servir ça qu'ils l'ont déjà fait. C'est comme tu l'as dit, c'est dans l'essence même de la course automobile. Et même tu vois l'histoire du Grand Prix de Chine 2016, l'histoire du Torpedo, les deux l'ont fait, soit dans le passé ou soit dans le futur et même dans le futur. Donc c'est sûr que ça va peut-être rester dans les annales de la saison. Un de ces moments va rester dans les annales de cette saison, ça c'est sûr. Mais c'est
pas course. Mémorable. Tu sais, je pense pas que dans 3 ans on va reparler encore comme le torpedo. Là.
Mais c'est de la course automobile. T'sais, c'est sûr que ça va arriver. Je suis sûr que ça va arriver aussi à George. Ça va arriver à George Russell aussi. Donc tu sais. Oui, sur le coup, c'est fou. Tu sais, je comprends Max d'être frustré, mais je comprends aussi que c'était pas nécessaire de dire décade. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas changer le monde. On peut pas changer le monde de la course automobile comme ça, là. Donc, tu sais, c'est juste comme ça.
C'est dans le caractère de Max de dire ça puis de terminer sur un échange de façon un peu colérique. C'est très, très in character pour lui.
Ouais.
Puis évidemment, quand t'es un pilote qui est complètement si on veut, qui est au-dessus des autres, là, c'est très facile de passer des leçons aux autres. Je suis pas sûr que si jamais tu remplaces Max par Logan Sargeant ou quelqu'un comme, je sais pas moi, comme Guan Yu Zhou ou Alex Albon, la réaction serait la même. Tu sais, le message aurait été vraiment bien différent.
Ouais, mais...
Il sort de son statut pour un peu pour passer son message. Je sais pas si je te mets dans cette situation-là en particulier, mais c'est quelqu'un qui a pas peur, que tu sais, il sait que, dans quelle position qu'il est, puis si nécessaire, il va s'en servir pour avoir un levier pour se donner un avantage. Là.
Ouais, effectivement, mais c'est ça. C'est de la course automobile. C'est tout ce que je peux dire. Parce que c'est...
Ça fait partie du show.
Ouais, ça fait partie du show, effectivement. Mais sinon, en piste, on a eu un autre moment important, c'est le dépassement de Sergio Perez sur Charles Leclerc, qui a été le dépassement principal pour s'assurer de la victoire du sprint. Charles Leclerc s'est quand même bien débrouillé dans les circonstances. Est-ce que tu crois que c'est prometteur pour demain, excluant des facteurs extérieurs, externes?
Excluant des facteurs italiens, disons.
Je n'ajouterai rien là-dedans.
Ah, OK. C'est bon. Des facteurs de manufacturier.
Ouais.
Je te dirais, écoute, c'est encourageant parce que on voyait très, très bien que Max avait de la misère à se tenir dans la seconde. Tu sais, il arrivait dans la seconde, au troisième, puis au premier secteur. Puis après ça, dans le deuxième secteur, Charles se reprenait son avance. La voiture semble plus à l'aise dans les virages, dans le virage de Bakou, qui sont des virages à 90 degrés en une grande majorité. Donc ça va peut-être lui donner un avantage, puis peut-être lui permettre de mieux se défendre. Mais tu le vois, là, tu as vu Perez, si jamais il est en avant, Ferrari le rattrape pas.
Mm-hmm.
Le départ va être extrêmement important. Parce que en ligne droite, du moment que Ferrari a le DRS, ça ne les avantage pas de la même façon que ça avantage Red Bull. Et puis on voyait aussi que Verstappen, il arrivait tout le temps au troisième secteur avec comme 0.9, une seconde, etc. Puis il rattrapait une demi-seconde dans le DRS, mais il manquait déjà un petit peu. Fait que, tu sais, je pense que Ferrari a un setup qui va leur permettre de se défendre.
Ouais.
Mais je ne sais pas si jamais c'est un setup qui va les permettre d'attaquer. Fait que le départ va être vraiment important. Puis, ouais, en ce moment, on le voit, Max, cette saison, il n'est pas bon sur les départs.
Ouais, c'est vrai. Ça peut être un avantage pour Leclerc demain. Parce que Leclerc a été vraiment bon dans cette. Dans cet aspect aujourd'hui, il a été aucunement inquiété pendant la première moitié de l'épreuve jusqu'à ce que Sergio Perez arrive en maître de circuit urbain qu'il est dans une Red Bull. Mais quand même, ça peut être important parce que si Verstappen loupe son départ demain, ben Leclerc pourrait se sauver un peu la vie. Sans dire nécessairement que ça va lui garantir une victoire, parce que je sais que Red Bull va trouver un moyen de revenir au front, autant pour Verstappen et Perez, mais le fait que Leclerc demain puisse faire sa course tranquillement, parce qu'il n'a jamais gagné sur ce circuit en partant de la pole, c'est la troisième fois consécutive qu'il obtient.
Quatrième incluant le sprint. Là,
ouais, exact. Donc, si on peut inclure la quatrième. Donc, sur ces quatre fois, il n'a jamais gagné. Est-ce que sur les trois fois, est-ce que la quatrième sera la bonne? On verra, mais il ne faut pas oublier que la Red Bull, quand même, un package plus complet que la Ferrari. Et bon, évidemment, il y a eu la malchance au Bahreïn pour Leclerc. En Arabie Saoudite, à Jeddah, il s'est bien débrouillé dans les circonstances, mais il avait été pénalisé. Il s'est bien débrouillé. Ça a été relativement une bonne stratégie de la part de Ferrari. Rare, mais oui, ça a été le cas. Australie, il s'est sorti lui-même, on va dire, là. C'est un incident de course, mais disons qu'il s'est mis un peu dans une position où il n'aurait pas dû être.
Ben, quand tu pars septième en partant, tu te mets un peu dans le tas pour le premier tour.
Ouais, exact. Un classique. Et là, j'espère voir Leclerc qui est dans une position où il est plus favorable, réaliser une bonne performance. Même s'il ne gagne pas la course demain, au moins finir sur le podium serait, ou bien même quatrième à la limite, là. Peut-être pas devant Carlos Sainz, mais finir dans le top, sur le podium serait une victoire en soi pour Leclerc, personnellement.
Ah, oh, écoute, il a besoin de chaque point en ce moment. Ouais. Il est en arrière de Lando Norris. Ben, là, je ne sais pas si jamais avec ça. Je pense qu'il l'a dépassé avec les points du sprint, mais c'est pas normal que Lando Norris, que certains, après deux courses, croyaient qu'il n'y aurait pas de points cette saison. Ou qu'il n'aurait genre peut-être une dizaine, quinzaine par pilote McLaren. C'était pas normal que Charles Leclerc soit derrière lui au classement.
Ouais, hein? C'est ça. Donc,
il faut que c'est la deuxième pire voiture. Mais oui, il y a eu de la malchance. Ça, c'est même pas une question. Tu sais, quand t'es en position de podium à Bahreïn puis que ta voiture te lâche, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est minimum 15 points qui partent en fumée.
Oui, exact. Pas le choix pour Leclerc d'avoir une très bonne course. Même ça a bien commencé aujourd'hui avec cette deuxième place en sprint, en espérant que pour demain, ça l'aide autant plus. On a parlé des Red Bull. On va aller regarder très, 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 très rapidement, parce qu'il n'y a pas eu... Ça n'a pas été tellement fameux, ce sprint, mais Aston Martin qui récolte encore des points. Beau dépassement de Stroll à l'endroit d'Alex Albon avec ce plongeon. Moi, je pensais qu'il se défendait, mais non. Malgré tout, Je pense que le DRS a fonctionné du côté des deux Aston Martin, si je ne me trompe pas, dans ce sprint.
Oh non. D'après moi, Lawrence Stroll a eu un beau soupir de soulagement quand tu as vu le DRS s'ouvrir.
Ouais.
Après quelques petits problèmes ce week-end. Non, pour vrai, c'est un petit peu inquiétant de voir Aston Martin qui sa seule chance de rivaliser avec Red Bull pour le championnat cette saison, c'est d'être impeccable, de ne pas avoir de bris, de ne pas faire d'erreur. Bon, si jamais ça commence à se produire à ce moment-là, ben le championnat va rapidement déraper en faveur de Red Bull, qui, même si jamais c'est une voiture qui n'est peut-être pas bulletproof, du moment où elle termine les courses, c'est pas mal tout le temps des podiums. Ça va être difficile à compétitionner avec ça.
Ouais.
Mais bon, je suis quand même content de voir que Aston Martin est dans une bonne position overall. Aller chercher des points. Là, est-ce que Fernando a terminé quel lien? Il a terminé
au sprint? Stroll a fini 8e. Alonso, je crois, fini
6e.
6e, ouais.
Ouais, bon, OK. Fait que les deux ont des points. Donc, ça, c'est beau aussi.
Ouais, c'est ça, 6e.
J'ai hâte de voir si jamais le problème va revenir, le problème de DRS est bien réglé, ou si jamais ça va revenir en course à ce moment-là. C'est un circuit que le DRS est un facteur
hyper important.
Extrêmement important, oui, comparé à bien d'autres circuits où que c'est il est là, mais il n'est pas nécessairement comme critique. Bon, je pense à Monaco.
Mm-hmm.
Donc, essentiellement, le DRS, il est juste là. Mais non, j'ai hâte de voir. Puis en même temps, c'est aussi bon de voir. Ben, c'est un échantillon beaucoup plus court que la course, mais vraiment, Ferrari est capable de au moins le tenir. Si jamais Leclerc avait tombé 3, 4, 5e là, à ce moment-là, ça n'aurait pas été beau chez Ferrari.
Ouais. Aussi, chez Mercedes, bon, Russell 4e, ça va, c'est bien, mais il va partir 11e dimanche. Lewis Hamilton n'a pas en retrait aussi, ça a été compliqué. Sinon, je regarde les performances. Lando Norris, un des deux pilotes parti avec la gomme tendre, ça n'a pas été fameux, il finit avant-dernier. Esteban Ocon, qui s'est arrêté à deux reprises dans une course sprint où les arrêts au piste sont facultatifs. Et de toute façon, Ocon était parti de la ligne d'épi pour changement de réglage des suspensions sous parc fermé. Donc, pour Alpine, ça n'a pas été très, très fameux. Son coéquipier, Pierre Gasly, qui finit quand même 13e, a gagné 4 places au total.
Est-ce que je peux le dire?
Oui, vas-y.
Pierre Gasly!
Évidemment, un hommage à Daniel Ricciardo, vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Non, en fait, du tout premier Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017. Et sinon, Alex Albon, peut-être hors des points, mais 9e, c'est très bon de la part de Williams. D'autant plus, bon, heureux, malheureusement, avec le forfait de Logan Sargeant, Williams va pouvoir se concentrer sur la course de demain où la voiture est quand même rapide sur les longues lignes droites. Donc, je m'attends quand même à une... Albon et Sargeant vont partir respectivement 13e et 15e. Donc, s'ils ont une bonne stratégie demain, ça devrait faire l'affaire. Mais de ce qu'on a vu aujourd'hui avec Alex Albon, ça pourrait être prometteur pour demain. Bon, là, c'est quand même... Le tiers d'une course qu'on a vu aujourd'hui. Donc, voyons voir lorsqu'on va avoir 100% demain. Donc, et surtout, si la voiture de Sargeant pourra tenir avec les réparations, avec le temps supplémentaire que l'équipe a eu avec les réparations faites après l'accident de l'Américain lors du sprint shootout.
Ouais, et puis, je trouve que il faut vraiment pas oublier Alex Albon, je suis d'accord. C'est un circuit qui a des longues lignes droites, la Williams, l'an dernier et cette année, c'est un circuit que quand tu as cette cible de configuration-là, tu as des longues lignes droites ou encore tu as des hauts pourcentages de. Tu sais, quand on voit la map, que tu as beaucoup, beaucoup de temps passé avec l'accélérateur au fond. C'est un circuit qui généralement va les favoriser. Il part 13e, si je ne me trompe pas, 12-13e demain.
Ouais,
donc, ça va être.
13e, ouais.
Il peut gagner les positions assez rapidement. On l'a vu, aujourd'hui, il est parti 13. Il est parti 13e, puis il a fini 9e en un tiers d'une distance de Grand Prix. Ben, j'ai bien de voir. Je voulais aussi quand même mentionner McLaren, c'est encourageant. C'est pas parfait, mais c'est une amélioration. Norris, si jamais il y avait les pneus médiums, est-ce qu'il y aurait peut-être pu se battre pour le dernier point? Peut-être. Piastri a bien fait avec une 10e place. Il était tout juste derrière Albon. Donc, il était à 1 ou 2 secondes. Ça s'améliore. C'est pas encore là où les fans de McLaren voudraient que ça soit. Mais faut prendre ce progrès-là puis aller de l'avant chez McLaren.
En effet. Donc, ça devient de plus en plus encourageant. Voyons voir demain aussi. Piastri a bien fait un bon dépassement sur Lando Norris. Shout out, Julien.
Je fais Charlotte à Julien, mais en même temps, moi, je pourrais aussi descendre Lando et dire qu'il était sur des softs maganés.
Ouais.
Bon, ce que tu veux, continue, vas-y, parle.
Donc, c'est ça. C'était une bonne performance de la part des deux, de Piastri, surtout. Non, c'est un peu plus malchanceux. Donc,
il a dû s'arrêter, là. Ses pneus étaient en train de fondre. Donc, c'est une 17e place, pas par erreur, mais juste les pneus n'ont pas tenu.
Et voilà. Donc, c'est ce qui complète ce résumé de ce premier après-sprint du bulletin GP. Il y en aura un autre, évidemment. Je me souviens plus, je pense que c'est le prochain, c'est en Autriche. Donc, dans quelques mois. Donc, ça va être le prochain épisode d'après-sprint. Mais on sera présent dimanche, donc le lendemain, pour l'après-course du bulletin GP, en espérant que ce soit plus excitant que ce qu'on a eu dans ce sprint aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et autres. On est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletinGP, ainsi que sur le groupe Facebook La Monoplace. Ça va nous faire plaisir de partager notre amour de la course automobile Formule 1 en particulier. François, un énorme merci d'avoir été là.
Mais merci à toi, Abdou, puis on va souhaiter que Charles Leclerc et Ferrari ne fassent pas Toronto d'eux-mêmes demain.
Ouais, Maple Leafs, devrait-on dire, là, donc...
Bien commencer et finir en queue de poisson. Est-ce que je prédis ce qui va se passer les matchs de décembre? Peut-être.
On verra. Donc, en espérant que ça ne soit pas comme ça pour dimanche. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve dimanche pour l'après-course du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Salut tout le monde!